L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.
Bonjour Maël Briand.
Bonjour Robin, merci pour l'invitation.
Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat avec la France Insoumise pour les élections européennes en 44e position sur la liste menée par Manon Aubry. Donc, vous êtes le directeur de cabinet de la députée Élise Le Boucher et pendant plusieurs années, vous avez donc été en Sarthe le directeur du Secours Populaire. Maël Briand, votre engagement pour la France Insoumise ne date pas d'hier puisque vous êtes également donc son porte-parole et coordinateur pour la Sarthe. Pour commencer, qu'est-ce qui vous motive à devenir candidat pour porter le projet de la France Insoumise à l'échelle européenne?
Merci pour cette première question parce que du coup les motivations effectivement sont tout de même originaires à un engagement politique après avoir été engagé longuement auprès des associations, de la vie associative localement. Disons que cette candidature, elle s'inscrit plutôt dans un parcours personnel, dans un parcours humaniste, attaché au progrès humain et au progrès social. Et c'est le juste prolongement pour moi que de m'ancrer justement dans cette campagne européenne, dans un moment de grande incertitude, comme chacun peut le constater.
C'est une approche différente sur les questions européennes qu'à l'échelle nationale et locale.
Alors, c'est une approche absolument différente, c'est clair, nous ne parlons pas du tout des mêmes dimensions en soi. Aujourd'hui, l'Europe a tout de même une incidence, en tout cas, la façon dont l'exécutif européen se conduit par les LR et par les socialistes aujourd'hui, et par la Macronie bien sûr, a un impact réel et manifeste sur la vie des gens, en France y compris. Donc même si on n'aborde pas les questions tout à fait de la même façon, parce qu'il ne s'agit pas des mêmes collectivités, ni même des mêmes compétences, ça a tout de même une influence qui est absolument déterminante sur notre vie politique et in fine sur la vie des citoyens, oui.
Et donc, comme on le disait en introduction, la France Insoumise a lancé sa campagne européenne avec Manon Aubry, c'était le 16 mars à Villepinte, avec notamment Jean-Luc Mélenchon, qui est d'ailleurs en dernière position sur cette liste. Maël Briand, quels doivent être les principaux axes et piliers du projet de la France Insoumise pour le Parlement européen ?
Alors pour le Parlement européen, on s'inscrit dans le prolongement de l'avenir en commun, qui est tout de même le programme de la France Insoumise, un programme qui jusqu'ici est le seul programme en mesure de pouvoir répondre aux urgences qui se posent à nous, que ce soit les urgences sociales ou les urgences climatiques. Aujourd'hui, la boussole pour Manon Aubry qui conduit notre liste et pour l'ensemble de la liste, c'est bien évidemment de s'opposer à la façon dont l'Union européenne est conduite aujourd'hui. Ça veut dire sortir absolument de la cure d'austérité qui est imposée au peuple aujourd'hui, sortir de cette doctrine du déficit à 3% qui asphyxie les États. On le voit bien lorsque l'on constate par exemple la situation de l'hôpital en France. La situation de l'hôpital en France est liée justement à la cure d'austérité, à ces règles absolument absurdes qui sont imposées par l'Union européenne. On voit par exemple que dans les dernières déclarations de Bruno Le Maire, 10 milliards d'euros de coupes budgétaires sur l'année 2024, 10 milliards d'euros d'économies, ces 10 milliards d'euros et ces économies ne sont pas faites par hasard. Ce sont des économies qui sont téléguidées par l'Union européenne justement pour que la France respecte ces règles que je qualifiais de règles absolument absurde, d'un déficit à 3%. Je reviens sur cette question des coupes budgétaires qui ont été annoncées par Bruno Le Maire. Il faut savoir que ces coupes budgétaires de 10 milliards, et c'est vous dire combien ces coupes budgétaires et combien l'Europe aujourd'hui joue contre les peuples, intègrent tout de même 2,2 milliards d'économies sur la prétendue planification écologique. Alors même que, on l'entendait dans le JT il y a quelques minutes que vous venez de diffuser, nous venons de faire face à l'année la plus chaude de notre histoire. Donc l'urgence, elle est là chaque jour. Et il faut pouvoir y répondre très vite.
Justement, on va parler d'écologie, mais d'abord l'agriculture, qui est peut-être parfois intimement liée. Cette crise, cette gronde sociale des agriculteurs depuis 2 mois. La France Insoumise, comme les écologistes, ont semblé parfois en difficulté dans ce débat, à la peine pour faire entendre leur voix, surtout pointée du doigt par les autres partis. Que propose LFI au sujet de cette crise? Il faut sortir de la PAC? Elle est essentielle ou elle est juste mal mise en place? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont vos positions?
Alors, sortir de la PAC, déjà, il faut savoir que la PAC, c'est 9 milliards d'euros dont bénéficie la France. Aujourd'hui, dans la répartition de ces 9 milliards, c'est facile à comprendre pour les gens, il y a 20% des exploitants, qui sont les plus gros généralement, qui récupèrent à peu près 80% de la mise. C'est simple, la PAC finance aujourd'hui la surface. Nous, ce que l'on demande, c'est que la PAC puisse être rénovée dans le sens d'un soutien aux salariats. non plus de financer de la surface, mais financer du salariat. Aussi pour pouvoir garantir un revenu digne, en fait, au personnel, aux travailleurs et travailleuses de la terre, aux agriculteurs et agricultrices. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et la révolte que l'on a pu voir, avant qu'elle ne soit reprise par la FNSEA, on l'entendait encore une fois dans votre JT il y a quelques minutes, était conduite par des agriculteurs et des agricultrices qui ne sont pas nécessairement apparentés ou rattachés à une grande succursale syndicale. Et la mobilisation des agriculteurs et des agricultrices, c'était d'abord une mobilisation pour dire « nous voulons vivre de notre travail ». Et en ça, la gronde est tout à fait légitime. Et aujourd'hui, le programme de la France Insoumise, le programme que porte Manon Aubry sur ces élections européennes, est le seul programme à pouvoir garantir ce revenu digne aux agriculteurs.
Est-ce qu'il y a un double jeu de la FNSEA, des FDSEA, selon vous ?
En tout cas, je vois que la FNSEA et les FDSEA ont salué... On saluait le premier paquet de mesures qui a été annoncé par Gabriel Attal il y a quelques semaines, à savoir surtout revenir sur les normes environnementales qui
sont imposées. La suspension du plan éco-phyto notamment.
Et la suspension qui est une très mauvaise idée signée Emmanuel Macron.
Parce que finalement, est-ce que c'est possible de continuer aussi à produire une agriculture de masse, surtout lorsqu'on est la 7e puissance mondiale, tout en prenant réellement en compte ces enjeux du climat et donc en essayant de l'adapter, ou c'est tout simplement une douce utopie ?
Non, mais je crois que de toute façon, le modèle agricole doit être absolument...
Bouleversé ?
Absolument refondu, repensé, c'est clair. Aujourd'hui, il y a tout de même plusieurs transitions pour l'exploitation agricole à devoir opérer. On l'a dit sur le modèle social. On peut aussi questionner le modèle d'exploitation, et nous, effectivement, ce n'est pas une surprise, on plaide pour une transmission et une transition vers une agriculture qui rend finalement l'existence humaine plus pérenne.
Mais de quelle manière, finalement ?
Alors, l'idée, c'est de pouvoir accompagner justement la transition, accompagner au maximum la transition. Là-dessus, il faudra voir aussi comment est-ce que l'on peut agir si demain nous conduisons l'Union européenne auprès de nos partenaires de la gauche. Mais il y a tout de même, après, si vous voulez, l'élément, il reste financier. Le levier reste financier, quoi qu'il en soit. Donc, évidemment, réussir à créer des outils de financement ou de soutien justement pour pouvoir accélérer cette transition écologique, y compris dans le modèle d'exploitation, c'est un véritable enjeu. Et je pense que c'est un enjeu pour les 50 prochaines années. Et de facto, on n'a plus une minute à perdre.
On va se tourner vers un autre sujet, une minute à perdre également. Il est central dans ces élections européennes, évidemment. On en a parlé à l'Assemblée nationale il y a quelque temps, c'est la guerre en Ukraine. Et le gouvernement qui a donc présenté à l'Assemblée nationale son plan de soutien à l'Ukraine pour les 10 prochaines années, avec en ligne de mire plusieurs volets comme l'aide militaire dans l'artillerie, la défense aérienne, mais aussi avec la promesse de soutenir l'Ukraine et l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et l'Union européenne. Il est là, le principal point de désaccord au Parlement. C'est un texte adopté de façon symbolique d'ailleurs, mais la France insoumise a voté contre. Alors même si c'est un sujet débattu à l'Assemblée nationale, il concerne directement les questions européennes. Et en tant que candidat aux européennes et porte-parole de ce mouvement, Maël Briand, pourquoi la France insoumise a-t-elle choisi cette position ?
Alors, c'est une position qui est facile à comprendre à partir du moment où on raisonne en matière de sécurité, mais aussi de sécurité pour les travailleurs et les travailleuses en France. Aujourd'hui, le salaire, le revenu médian en Ukraine est de 200 euros. Aujourd'hui, on a aussi en Europe une politique à destination des travailleurs détachés. Voilà. Aujourd'hui, on ne pense pas que les conditions soient réunies pour pouvoir accueillir l'Ukraine en l'état actuel des choses, en l'état actuel de ses normes et de sa vie sociale au sein de l'Union européenne, sans déstabiliser finalement l'économie des peuples.
Parce que certains pays, comme l'entrée de la Bulgarie, de la Roumanie il y a 20 ans, début des années 2000, même la Slovénie, ont pu déstabiliser de cette manière-là, et c'est ce que la France insoumise craint aujourd'hui ?
Ah oui, tout à fait. Et si vous voulez mon avis personnel, je ne pense pas aujourd'hui que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne soit bien à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il faut absolument que l'on puisse mettre en place un processus diplomatique de paix partout dans le monde. On parle de l'Union européenne et de l'Ukraine. On peut aussi parler de la situation en Israël et en Palestine et à Gaza tout singulièrement. Aujourd'hui, conduire un processus de paix sérieux, ça veut dire réussir à créer finalement les conditions de ce dialogue.
Mais de quelle
parler
manière,
d'une extension de l'OTAN et de l'Europe à l'Ukraine et venir aux portes de la Russie, je ne pense pas que ce soit une solution bien sérieuse d'aborder cette question nécessaire de la paix.
Et comment le faire avancer ce conflit, se tourner vers ces questions de paix? Comment est-ce qu'il doit se régler ce conflit s'il ne faut pas lancer de plan de cette manière?
Alors, ça, les modalités restent à trouver. C'est clair que de toute façon, on a été toujours sur une position assez limpide s'agissant de la guerre russe conduite par Vladimir Poutine en Ukraine. Il y a un agresseur, il y a un agressé. Aujourd'hui, on a des accords en droit international et notre boussole, ça a toujours été le droit international. Après, sur les modalités, il faut absolument associer le peuple ukrainien aussi au processus diplomatique, au processus de discussion. Moi, je n'ai pas l'ambition de répondre pour les Ukrainiens les modalités qui seront les leurs. Mais en soi, nous avons les accords de Minsk qui sont un point d'appui. Et il faut faire vivre ce point d'appui, absolument. Mais à un moment, la diplomatie est la seule voie, la diplomatie politique est la seule voie pour pouvoir...
Mais ces accords de Minsk n'ont-ils pas été finalement balayés d'un revers d'une main par la Russie?
En tout cas, c'est le point d'appui en matière de droit international.
C'est une situation piégeuse parce qu'en votant ce texte, on peut être pointé du doigt comme des pro-Macron. En ne le votant pas, on est taxé de pro-Poutine. Mmh,
oui.
C'est ce que disaient certains élus de gauche.
Oui, bien sûr, mais sauf que nous, on n'a jamais fait le jeu de Poutine et on n'est absolument pas pro-Poutine. D'ailleurs, on est extrêmement opposé à Vladimir Poutine. Nous, les amis que nous avons en Russie sont les amis de la, sont les amis de la gauche russe. Absolument pas Vladimir Poutine. Nous n'avons rien à voir avec cet homme, qui par ailleurs est un dictateur et qui fait des scores de dictateur dans son pays. Il est un problème. Il est un problème pour son peuple. Il est un problème pour les peuples. Ça, c'est très clair. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir.
Est-ce qu'il est là le problème à gauche? C'est que justement sur l'Europe en particulier, il y a des points de non-retour, des visions trop différentes sur certains points essentiels entre les différents mouvements de gauche.
Mmh. Alors, pas seulement sur les relations internationales. Hein. On n'est pas obligé d'aller sur le versant des relations internationales ou de la diplomatie pour constater les désaccords. Les désaccords, ils sont manifestes lorsque Raphaël Glucksmann conduit l'exécutif européen aujourd'hui qui impose cette cure d'austérité aux Français, aux Françaises y compris, depuis plusieurs années. Les macronistes, encore une fois, les macronistes, les républicains et les socialistes, dans ce qu'ils appellent leur belle alliance, conduisent les affaires européennes depuis très longtemps. Ils sont dépositaires du bilan que l'on constate.
Jean-Luc Mélenchon a critiqué une partie de la gauche lors du meeting de Villepinte. Il a fustigé justement ceux qui ont décidé de nous diviser, qui portent une lourde responsabilité.
C'est vrai.
Si les gens de gauche nous aident, ils auront l'unité. Il fallait la faire, cette union?
Mais bien sûr, il fallait absolument faire cette union. Nous, on reste attachés à l'union. Par ailleurs, le programme que nous défendons est en grande partie le programme de la NUPES, amendé par les jeunes de la NUPES. Les jeunes d'Europe Écologie Les Verts, les jeunes socialistes, les jeunes insoumis, tous se sont retrouvés pour pouvoir discuter un programme et essayer de créer le lien finalement qu'il manquait entre les différents partis pour pouvoir créer les conditions d'une campagne commune. L'enjeu, il est simple, c'est de réussir à imposer une défaite nette à l'extrême droite, tout d'abord, Jordan Bardella en particulier, et à la Macronie. Et ensemble, force est de constater que nous étions en mesure de pouvoir le faire. Donc l'union, l'absence d'union est tout à fait regrettable.
Mais il fallait faire une union à la seule condition que la France insoumise ait la tête de liste?
Ah non, absolument pas. D'ailleurs, Manon Aubry a été très clair sur cette affaire. La tête de liste a été proposée à Europe Écologie Les Verts, et notamment à Marie Toussaint, qui l'ont refusée. Et ça, c'est de notoriété publique. Moi, personnellement, je le regrette. Ici, on arrive à faire vivre, ici en Sarthe, on arrive à faire vivre un espace de dialogue de la NUPES. On arrive à avoir des discussions qui vont pour le bien commun et l'intérêt général, qui vont dans le sens de ce que nous défendons en commun. On a signé tout de même un programme, le programme de la NUPES, c'est 500 et quelques mesures que l'on s'était engagé à faire vivre ensemble à l'Assemblée il n'y a pas 2 ans de ça. Aujourd'hui, ce programme, il est en rien caduque et il a toute sa validité à l'échelle européenne.
La France insoumise voulait une union.
Ah, on voulait l'union.
Mais alors pourquoi n'a-t-elle pas voulu faire d'union avec le NPA, un mouvement plus petit?
Alors, pour le coup, c'est le NPA qui a refusé de faire l'union avec la France insoumise au regard des positions, enfin, dans une première justification qui a été celle de dire que nous n'étions pas suffisamment clairs sur la question ukrainienne. Mais notre boussole, encore une fois, c'est les peuples. Et c'est la souveraineté des peuples.
Il y a un élément qui a attiré l'attention lors du meeting de Villepinte et dont Manon Aubry a dû se justifier. Il n'y avait pas de drapeau européen qui était présenté. Elle explique qu'il faut rompre avec beaucoup de dogmes sur l'Europe. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, ou alors quel message envoyer lorsqu'on veut représenter l'Europe et ses citoyens au Parlement et qu'on refuse d'afficher son symbole premier ?
Mais on veut une autre Union européenne. On veut une autre Europe. On veut sortir de l'Europe du marché, de l'Europe de l'austérité, de l'Europe de la Commission européenne qui kidnappe une partie de la démocratie directe des populations pour pouvoir soumettre des textes qui soumettent toujours plus les Français et les Françaises, comme les autres peuples européens, à une austérité qui est absolument délétère. Enfin, encore une fois, il faut voir, je reviens sur les coupes budgétaires de Bruno Le Maire. Vous allez me dire que c'est une marotte, mais en réalité, non. C'est juste que là, c'est le parfait exemple, dans l'actualité, de ce que nous impose l'Union européenne. 10 milliards de coupes budgétaires, dont une grande partie sur l'aide publique au développement, une partie absolument conséquente sur la transition écologique, une partie sur la culture, avec les sorties que l'on a pu voir de Rachida Dati par ailleurs pour les indiscrets. C'est absolument terrible pour le développement français, pour son rayonnement, mais aussi pour la capacité à pouvoir vivre dignement en fait en France. C'est ça la problématique. Donc nous, on veut une autre Europe. Donc il n'y a rien d'antagoniste. On veut une autre Europe, on veut une Europe de la dignité, on veut une Europe en paix, et on veut une Europe qui défende un modèle de vie sur Terre qui soit vivable pour tous.
Vous qui êtes aujourd'hui candidat, avez-vous le sentiment que les Sartois, les citoyens, sont suffisamment sensibilisés aux enjeux d'une élection européenne et au rôle de l'Europe et du Parlement européen aujourd'hui ?
Non, je pense qu'ils se figurent cette espèce de machin étant complètement éloigné de la vie des peuples, et en une certaine mesure, ils n'ont pas tort. En soi, il faut quand même leur faire, faire comprendre ou faire toucher du doigt aux abstentionnistes convaincus que l'Europe s'occupe d'eux.
Est-ce qu'il y a un traitement médiatique qui ne va pas dans le bon sens, selon vous, dans ces périodes d'élections, comme ce qu'on a pu reprocher lors des élections locales et régionales il y a 3 ans?
Non, ce que je vois, c'est que la campagne commence tout juste. Alors du coup, on fera le bilan a posteriori de cette affaire. Mais c'est sûr qu'un petit peu plus de médiation au long cours sur l'Union européenne, sur les décisions qui y sont prises, la façon dont les discussions sont conduites, parce qu'il faut savoir quand même que les députés européens aujourd'hui ont un pouvoir d'amendement, un pouvoir de proposition, mais qu'en soi, ils ne font pas la loi. Au mieux, ils l'améliorent. Il l'amende. Ça a été tout le travail de Manon Aubry aux côtés de Marina Mesure ou aux côtés de Younous Omarji, par exemple. Manon Aubry qui a été elle-même dépositaire de 3500 amendements et qui a porté son pouvoir de proposition et qui l'a fait vivre pour le coup.
Merci.
À l'inverse de ceux qui prétendent le contraire et n'affichent que 21 amendements.
À savoir Jordan Bardella. National.
Jordan Bardella.
Chef de file.
Là où il passe, peut être sûr que rien ne changera.
Merci Maël Brion d'avoir répondu à notre invitation.
Non, merci à vous.
Vous êtes candidat pour les élections européennes pour la France Insoumise et la liste conduite par Manon Aubry.
L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.